Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Podcraft, c'est le 6e numéro. Si vos clics vous ont amené jusqu'à ce podcast, alors certainement que vous faites partie de ces gens ayant vu passer notre annonce. Le championnat de France de Warcraft 3 revient et c'est Frenchcraft qui l'organise de nouveau. L'occasion était trop belle pour manquer de revenir sur ce qui définit le championnat de France, un peu son histoire via les différents noms qu'il a pu avoir au travers d'un épisode un peu spécial. ESL Pro Series, ESL Championnat National ou Championnat de France, plus sobrement, sur une période qui s'étend de 2004 à aujourd'hui. Alors vous allez voir qu'il y a un ventre mou évidemment entre tout ça. Retour sur une compétition à plusieurs casquettes. Alors peut-être pour compléter un peu ce préambule, simplement spécifier qu'on va ici aborder les compétitions qui se revendiquent, se rapprochent, s'identifient ou ont été avec le temps assimilées. Avec la force des choses, à un tournoi sous la bannière bleu-blanc-rouge et au format Ligue, et donc pas au format Cup. Donc exit les ESWC France, WCG, etc., qui à eux seuls mériteraient des épisodes complets. Ça ne va pas nous empêcher de revenir dessus, ne serait-ce que pour donner des éléments de contexte, mais voilà, ce n'est pas ces compétitions sur lesquelles on va se focaliser. Exit aussi la Pandaria, qui était la compétition reine de Warcraft 3 en France, rétrospectivement, et qui à elle seule, je pense, mériterait un épisode entier, tant son histoire est dense. Alors tout cela démarre dans les années 2000, alors plutôt en 2000 même plus précisément, puisqu'en succession de la Dutch Clan Liga est créée l'Electronic Sports League, qu'on va appeler plus communément ESL, qui est une organisation allemande qui a démarré ses activités par des compétitions de jeux vidéo, et le lancement d'un magazine spécialisé, nous apprend Wikipédia. Alors, très franchement, je n'ai pas réussi à trouver d'image ou de photos de ça, donc on va juste croire Wikipédia sur parole. Je pense que c'est sage de faire comme ça. Et donc, c'est dans un contexte où l'e-sport est encore loin du niveau dans lequel on connaît aujourd'hui. Hein, la structure n'est fondée qu'en 2000. On connaît du Quake 3, du CS, du Starcraft Broudoir principalement, mais on en est encore qu'au balbutiement de la chose. Donc c'est vraiment pendant cette période-là, que en août 2002, donc vraiment un mois après la sortie de Warcraft 3, Reign of Chaos, les ESL Pro Series, qu'on appellera les EPS, sont lancés par l'ESL. Donc c'est une compétition qui, l'anecdote, et pour la première et aussi la dernière fois, sera joué en duo. Ce ne sont que des rencontres en 2v2. Donc c'est une compétition 100% allemande. Donc sans rentrer trop dans le détail, c'est l'équipe Orkish Empire qui l'emportera. Au passage, avec un chèque de 15 000 euros, ce qui est vraiment énorme pour l'époque. L'équivalent de 22 000 euros avec l'inflation aujourd'hui. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel quand même. Quand on compare aujourd'hui la situation des tournois de Warcraft 3, on était vraiment dans une époque différente. Donc c'est fort de cette première expérience que le SL récidive pour plusieurs saisons successives, en fin de compte, hein, dès février 2003. Mais cette fois, dès février 2003, donc en cette saison 2, on adopte un format qui sera vraiment devenu le standard. Donc on a du solo, du BO3, et un map pool plus garni, effectivement, puisqu'en première saison, on n'avait que deux maps. Là, on retombe sur un standard de 4 ou 5 maps, je crois. Donc, en parallèle de cette situation en Allemagne, les EPS tentent, le SL en tout cas, par l'intérieur de ces EPS, tentent une première expérience hors Allemagne, en République tchèque, en octobre 2003. Donc, c'est vraiment quelques mois après le lancement de la saison 2. Et c'est véritablement à la suite de la sortie de Frozen Throne, qui est sortie en juillet 2003 déjà. Et c'est seulement en juillet 2004 que les EPS France sont annoncés pour un démarrage en septembre, vraiment 2 ans après les premiers EPS en Allemagne. Donc c'est simplement nommé EPS France saison 1 et c'est organisé par l'ESL France, donc là, vraiment le pendant France de l'ESL. Et là aussi, la compétition adopte un format championnat avec des journées régulières qui se termineront en play-off. En play-off, évidemment, mais surtout en offline. Les play-offs se dérouleront au Palais des Congrès de Paris, ce qui est plutôt stylé. On était loin des 15 000 euros de Orkish Empire, hein, pour info. 15 000 euros en 2002, On a 10 000 euros qui sont remportés par The Pig en, dans la première campagne solo des EPS Allemagne, donc en saison 2 des EPS Allemagne, puisque là en France, le vainqueur n'aura droit qu'à, entre guillemets, hein, qu'à 200 euros. Voilà, donc il y a un qualifier qui est organisé, il y a 8 joueurs qui sont retenus. Au terme de ce championnat et de ces playoffs, c'est finalement Fatse qui est joueur SK et qui est à l'époque vu comme un des meilleurs joueurs humains de France, hein, encore à la lutte avec Todd avant que ce dernier ne s'envole. Donc c'est Fatse qui l'emportera face à Blatty, meilleur joueur undead français de l'époque et figure de l'Arma Team. Donc Todd n'avait pas pu jouer, il avait rejoint Four Kings depuis mai cette année, même s'il était auparavant chez l'Arma Team. Arma Team qui sera dissoute en fin de compte à peu près à cette période, en septembre 2004. Donc parmi les autres joueurs, dont certains faisaient partie de l'Arma Team, mais pas que, on a retrouvé Deco, retrouvé Roi, Fintox, Bishop. Et un certain DKS qui est toujours actif à l'heure où je vous parle, puisque on le voit régulièrement sur W3 Champion. C'est d'ailleurs lui qui viendra remplacer Todd. Au niveau du map pool, on a un standard qui est déjà bien installé à cette époque, puisqu'on retrouve Gnollwood, Lost Temple, Turtle Rock, Twisted Meadows, et on a deux maps solo qui sont Plunder Isle, donc île au trésor, et deux rivières. Donc Plunder Isle. Plunder Isle, c'est une map qui était là sur Reign of Chaos, qui utilise le tileset, je crois que c'est Lordaeron en fin de compte, donc c'est vraiment l'environnement standard qu'on peut avoir sur Twisted Meadows ou Lost Temple par exemple. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne l'ont pas connu, c'est vraiment une map 1v1, tout dans la longueur, où en fin de compte, au milieu de la map, chaque joueur bénéficie entre guillemets d'un îlot central, donc on a deux îlots centraux sur la map qui sont structurés sur deux étages dont on accède via deux rampes successives, une première rampe pardon, qui arrive sur la mine d'or et une deuxième rampe qui arrive sur un shop. Donc c'était vraiment un lieu c'était vraiment un lieu sujet au creepjack forcément. Ce qui n'était pas toujours pour plaire aux joueurs. Alors un peu plus tard sur cette map, ils rajouteront une rampe de sortie, mais le mal était fait, ça n'a pas resté très longtemps dans les maps pool, mais néanmoins on s'en souvient parce que c'est quand même une des maps les plus jouées en 1v1, en tout cas les deux premières années je dirais. On a deux rivières, donc qui est plutôt elle, une map qui est venue avec The Frozen Throne, mais qui a été abandonnée parce que tout simplement ce n'était pas une map symétrique et forcément il y avait qui dit asymétrie dit déséquilibre donc elle a été peu ou prou abandonnée un petit peu plus tard. Donc ça constituait le map pool de l'époque et donc c'est Fatse donc qui remporte ce premier championnat de France et notre premier champion de France. C'est un titre qui valide son statut de meilleur joueur français avec sa victoire face à Todd à l'ESWF France un peu plus tôt. Voilà, ça fait partie des éléments qui permettent de contextualiser le tournoi. C'est aussi à peu près à cette période-là que sort le patch 1.17, et ce patch-là a ça de particulier qu'il introduit de nouveaux héros neutres, qui sont le Fire Lord et le Goblin Alchimiste. Au niveau de la méta, alors j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se faisait, parce que c'est quasiment impossible en fait de trouver des replays et encore pire des vidéos de ces parties-là. Donc j'ai pu trouver des vidéos, en particulier grâce à W3 History. À peu près cette époque-là où la méta était somme toute standard pour l'époque avec un DK des ghouls contre un AM et des foot avec rifle, du haras avec le DK et le bâton de nécromancie, un MK en second héros, une liche en second héros pour l'UD, un crippler dans 3, rifle priest à bow, spellbreaker et on partait parfois sur de l'aérien en late avec des griffons. Voilà. Saison 2, la deuxième édition, elle voit le jour en février 2005 avec un prize pool qui est légèrement relevé à 450 euros. On était à 350 la fois précédente et on a cette fois trois qualifiers plutôt qu'un seul. Et de nouveau, les playoffs se jouent en offline, cette fois à la Cité des Sciences, toujours à Paris. Patch 1.18, nouveau map pool, exit Plunder Isle, exit de Rivière et exit Iceforge qui était aussi une map utilisée, alors plutôt la saison 1, je crois, plutôt que la saison 2. Et on découvre en remplacement Echo Isle pour la première fois qui arrive sur ce patch. Et Secret Valley et Terrain Asten qui, eux, elles plutôt intégreront le ladder dans un deuxième temps. Donc deux qualifiers supplémentaires, comme je disais, portés à 3, qui vont permettre de doubler le nombre de participants, passant de 8 à 16 joueurs. Au niveau des joueurs, donc Todd à nouveau ne participe finalement pas, puisqu'il était sans doute encore en Asie. On retrouve quelques nouveaux noms qu'on ne connaissait pas. On a Sayen qui était un joueur humain, qui avait aussi un autre nickname qui était Sofiane. Donc ça c'était plutôt chez les humains, chez les orques, c'était historiquement on était toujours un peu léger en France, hein. Donc on avait Shore pour le plus connu, qui était passé chez Armateam puis chez Good Game. On avait Castle qui était chez EFC. Chez les Undead on avait Yoda, qui était déjà présent, qu'on avait revu un peu dernièrement actif d'ailleurs. Maillon et celui qu'on appelait encore Linkin. Enfin chez les elfes on avait Rom, KSR, Edko. Et un tout jeune joueur qui venait d'avoir 15 ans, Wolf. Donc comme je disais, hein, sur le format, on a trouvé une formule qui fonctionne, il n'y a rien qui change. BO3, solo, map pool, standard, saison régulière, playoff. Donc on retrouve en finale Wolf face à Linkin. Donc c'est le joueur elfe qui l'emporte 2-1. Et on retrouve un pattern qui est un peu similaire au dernier OPS, c'est-à-dire que le vainqueur de l'ESWC France confirme de nouveau en finale des EPS, comme l'avait fait FATC la fois précédente. L'occasion pour Wolf d'asseoir son statut de top 2 français derrière Todd. Todd dont la carrière prend une dimension vraiment différente. Pas grand chose de plus sur la méta. Alors là, pour le coup, c'était de l'UD versus Elf. Des cagoules contre du DH archer avec un panda en deux, une liche en deux pour l'UD. Principalement Dryad Bear, Cripplord en trois. Et de la gargouille. Assez peu de statues, paradoxalement. J'ai assez peu vu de statues. Je sais pas trop pourquoi c'était pas utilisé, ou en tout cas moins utilisé à l'époque que maintenant, mais sur les parties que j'ai regardées, en tout cas, c'était assez peu nombreux. On pouvait croiser aussi du Wishmaster sur Turtle Rock avec un mix d'Huntress et d'Archer, ou éventuellement de la Warden avec des hippogriffes montés. Chez les Undead, c'était quasiment systématiquement la même chose. Un mot sur le comment on pouvait suivre ces rencontres dans les années 2004, c'est difficile de faire autrement. La bande passante et les connexions internet de l'époque ne permettaient pas de visionner de la vidéo en flux constant à qualité qui soit suffisante. Donc les flux audio étaient peut-être la seule solution pour permettre de suivre ce qui se passait sans avoir forcément une ADSL très forte, ou même de l'ADSL par ailleurs. Donc on utilisait un lecteur audio qui s'appelait, alors je sais pas si d'autres lecteurs audio ne le faisaient pas aussi, mais c'était celui-là par lequel ça a démarré en tout cas. Un lecteur audio qui s'appelait Winamp, qui existe encore d'ailleurs. Winamp permet toujours de télécharger son client sur leur site principal. Je suis pas sûr que ce soit très très utilisé, mais en tout cas c'est vraiment la même tête. C'est vraiment la même tronche qu'à l'époque, donc c'est plutôt drôle. Et sur ce lecteur audio, on installait une extension qui s'appelait Shoutcast, pour lequel il fallait rentrer une adresse IP qu'on récupérait soit sur un site de news, soit sur un site relais en fin de compte de Warcraft 3. On copiait-collait, on le lançait et on pouvait écouter. En français, c'était principalement Lee Wellis au départ. Ancien manager de l'Armateam, toujours manager de l'Armateam actuel d'ailleurs. Je me demande si Nuke n'a pas aussi fait des showcasts, qui était manager SK et qui avait essayé aussi géré la team, l'équipe de France pendant les ENC. Ça c'était en français. Ensuite on a eu des web radios qui se sont développées, donc on ne passait plus tellement par Winamp finalement. On a une Edge Radio et CX Radio dans lequel notre Bebs national officiait. Et en anglais, on avait Bunny, Kid Arctica, pour ne citer qu'eux, et aussi Kaldor, ex-manager 4K. Donc avec ce flux audio, on avait aussi la possibilité de rejoindre les parties avec un programme qui s'appelait WAG TV. Vous avez peut-être entendu parler, ça permettait simplement de... je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait, mais en fin de compte, je crois que ça recréait à partir des éléments de la partie qui était récupérée via le serveur, quoi, finalement. Ça recréait la partie en LAN sur son propre PC, ce qui permettait de rejoindre la partie, de la mettre en pause quand on voulait, de l'accélérer, etc. Et l'idée, l'exercice, c'était de caler le flux audio sur le replay. Ça permettait de suivre la partie à la fois avec la WAG TV et à la fois avec le Shoutcast. Shoutcast qui est vraiment devenu ce qu'on appelle une antonomase, donc comme les Kleenex, les Scotch, etc. C'était vraiment devenu un mot générique pour désigner tous les commentaires de parties. De Warcraft 3. Troisième saison 2006-2007, alors c'est à cheval sur 2 années. La saison 3 des EPS France, elle est annoncée en août 2016, 2006, pardon, donc, pour un début des hostilités en septembre. Alors il y a un seul qualifier qui offrira 2 spots et tous les autres seront invités. Donc les noms qui n'avaient pas encore été cités jusque-là, on retrouvera Chobo, Cameliris, Zell, TRQR, Artgamer, HG. Fred Chubb, Ravenax, Lej et un certain Blast. Donc là encore, Todd, bien que qualifié pour les playoffs, malgré ses défaites face à Linkin et à Blast, ne fera pas le déplacement puisqu'il est en Chine. Cash prize toujours de 900 euros, ça n'a pas bougé. Et à la fin, c'est LK, donc Linkin. Renommé LK du coup, qui s'impose face à HG en off-race orc pour l'occasion. Donc cette fois, seule la finale s'est jouée en offline, pas l'intégralité des playoffs, s'est jouée au Cybercafé 1000 qu'à Paris, à l'été 2007. Dans cette saison, le pattern que j'évoquais juste avant est brisé, puisque cette fois, c'est pas le tenant du titre de l'ESWC France qui sortira vainqueur, puisque LK avait fait top 2 derrière Wolf à l'ESWC France. C'est une saison qui est un peu ternie par un certain nombre de forfaits, alors même si c'est assez récurrent, surtout sur des événements qui traînent sur des mois et des mois, je pense que c'est quasiment inévitable. Mais là, le fait est que annoncé en août 2006 pour une fin en juillet 2007, c'est vraiment exceptionnellement long. Donc c'était vraiment une organisation un peu chaotique hein, de Dixit, l'ESL directement, pour plein de raisons. Pour plein de raisons, donc je pense que ça a dû échauder un peu les orgas et certainement conditionner l'avenir de la compétition. Pas grand-chose de plus sur la méta. On est sur une méta qui est similaire avec des gargouilles et des ghouls contre du panda et Béardriad. Et 2007, novembre 2007, donc quelques mois après la fin de la saison 3, la saison 4 est annoncée pour une quatrième saison des EPS France, donc avec toujours ce même cash prize de 900 euros, toujours un map pool identique et toujours des playoffs qui sont intégralement joués offline. Donc, toujours. Cette fois, l'intégralité des playoffs seront joués intégralement offline. Quelques nouveaux noms qui viennent se greffer aux noms qu'on connaît habituellement. On a Psycho, autrement appelé Yellow Star sur LoL. On a Bensen, Monster. Makoz, Kleenex, BSK et Side. Tous beau monde, généralement répartis sur trois principales équipes qui étaient LGR, Légionnaire, EFC et Millennium. Donc c'est une saison qui est un petit peu marquée par quelques abandons, au moins deux qui sont DKS et TRQR. J'ai pas eu connaissance de plus que ça, mais c'est quand même la première fois que Todd peut se rendre au playoff, puisqu'il était de retour en France pour l'occasion, mais il a fait quelques tournois. Je crois qu'il fallait qu'il engrange quelques points pour pouvoir participer à l'ESWC suivant. Il y avait quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas été en touriste pour le coup, puisqu'il s'impose face à Psycho en finale. En saison régulière, Todd, qui aura joué beaucoup en random d'ailleurs, mais il concédera une défaite quand même de 0 contre Bensen, qui sera parti sur une strat DR Panda. Donc les playoffs sont joués à la Gamers Assembly 2008 à Poitiers. On aura Todd qui sort victorieux. Alors cette GA a cela de particulier qu'elle était pratique pour pas mal d'orgas, puisque finalement ils sont organisés les qualifications françaises pour la Code 5, qui était un tournoi qui allait se dérouler un peu plus tard à Moscou. Il y a eu donc ces EPS, la finale des EPS, et il y a eu effectivement forcément le tournoi de la Gamers Assembly. Donc trois finales remportées toutes par Todd. Les EPS contre Psycho, donc la GA contre Wolf et la Calife Code 5 contre AG. Et pas grand-chose de plus sur cette méta toujours humain contre elfe. Ce sera ici les derniers EPS France sur Warcraft 3 avant longtemps, puisque la saison 5 aura bien lieu en 2009, mais uniquement sur CS 1.6, sur CS Source et sur FIFA. Avec quand même une petite exclue, la possibilité de jouer à une première version de StarCraft 2 sur place, lors des playoffs des EPS France 2009, plus d'un an avant la sortie de StarCraft 2. Alors c'est pas complètement étonnant que ça s'arrête puisque plusieurs joueurs annoncent leur retraite relative, entre guillemets. On sait ce que c'est un départ en retraite d'un joueur. Souvent ça se termine par un retour. Et StarCraft 2 qui était déjà dans toutes les têtes des joueurs. Donc vraiment 2007, on connaît une année pic en termes de cash prize puisqu'on dépasse pour la première fois et la seule fois d'ailleurs le million d'euros. Offert dans le monde. Et le downfall vraiment commence en 2008, avant que ça touche le fond vraiment en 2013, avec une activité morte, pour ne pas dire autre chose, avant de repartir un peu plus doucement, certes, mais repartir à la hausse après 2014, quoi. Donc le SL a peut-être été, ce que je disais, échaudé hein, par certains abandons et d'autres difficultés d'organisation. J'imagine que le retour sur investissement des sponsors n'était certainement pas à la hauteur et ne justifiait pas d'en remettre une couche. Même si en Allemagne, il continue jusqu'en 2010 pour autant, mais encore une fois, on parle quand même de deux publics différents. Et cela étant dit, même si l'Allemagne continue, le montant du prize pool diminue quand même, lui aussi bel et bien, jusqu'à la fin, dès 2009. Donc tout ça montre quand même un désintérêt du public avant tout, et donc des annonceurs, et donc des organisateurs. Il n'en fallait pas plus pour que l'ESL Pro Series se termine ici pour Warcraft 3. Warcraft 3 donc qui va connaître un peu sa traversée du désert, et il faudra attendre 12 ans en fin de compte après les derniers EPS. Pour voir à nouveau l'ESL réinvestir dans Warcraft 3. Ah, 12 ans donc après les derniers EPS, l'ESL réinvestit dans Warcraft 3, surfant sur la vague de Reforge qui vient tout juste de sortir, parce que c'était en janvier 2020, et Blizzard signe un partenariat avec l'ESL et la DreamHack de 3 ans, structuré autour du circuit appelé ESL Pro Tour. Donc il y a 200 000 euros qui sont injectés en prize pool, qui sont promis à Warcraft 3 sur tout le long de cette ESL Pro Tour, une compétition ESL et 3 DreamHack. Dans ce scope-là, les ESL Open Cup, qui signent le retour des Weekly Cup ouvertes à tout le monde, sont lancés en février 2020, soit vraiment quelques jours après la sortie de Reforge, qui permettait en fait d'engranger des points ESL Pro Tour et pouvoir gravir les échelons, pourquoi pas participer à un de ces events. Alors il faut bien se mettre en tête la période qu'on vient de vivre à ce moment-là, avec le désastre de l'alpha, puis de la bêta de Reforge, et enfin la sortie du jeu définitif, entre guillemets, puisque finalement on s'est aperçu qu'il manquait énormément de choses, énormément de fonctionnalités, et encore aujourd'hui on lutte un peu. Et on sort à peine la tête de l'eau après 5 ans. Bon, ça mériterait un épisode vraiment complètement à part. Enfin, en tout cas, dans ce contexte-là, un peu plus d'un mois plus tard, les championnats nationaux sont relancés. Donc, quant à eux, pas du tout sous la coupelle ESL Pro Tour, hein, dans le sens où ils ne permettent pas de gagner des points ESL, mais toujours est-il que le gagnant se voit octroyer un spot pour la DH Open Summer 2020 Europe. En tout cas, c'était le cas pour l'ESL Championnat National qui sera lancé pour la France. Pour la France, c'est ça, mais ça sort sous différents noms, en fin de compte, toujours sous la bannière ESL, dans différents pays. Donc, respectivement, en Espagne d'abord, avec les Masters Espagna. Ensuite, on a l'Australie-Nouvelle-Zélande avec la NZ Championship. La France, donc, avec l'ESL Championnat National. Et enfin, l'Allemagne avec la Meisterschaft qui voit le jour. Donc, pour se recentrer sur l'ESL Championnat National, donc, on a trois qualifiers qui permettent à 8 joueurs d'atteindre le main event et donc de participer à la saison régulière. Side, Krav, Cornox, Kountinifi, Sed, Day et Kleenex. C'est Side qui l'emporte en finale face à Krav, 3-1, à la fin de ses playoffs et empoche la petite somme de 1 500 € et son spot donc à la DreamHack Open Summer. Donc cette ESL championnat national, il intervient en plein Covid, c'est-à-dire que le premier confinement a lieu mi-mars, la première journée du championnat national a lieu le 7 avril. Donc en aucun cas il était évocable de jouer les playoffs en offline, contrairement aux EPT précédents. Ça a enlevé un petit peu peut-être de la hype à la chose. Le championnat national, on l'annonce comme étant sa mouture summer, donc on se dit qu'il y en aura d'autres. Pour fall habituellement et puis pour l'hiver, donc winter. L'alignement des planètes droit dans ton cul vient perturber les plans puisque on a un lancement donc catastrophique de Reforge, premièrement. On a le Covid qui arrive vraiment, mais pile à ce moment-là. Alors même si, encore une fois, on pourrait dire que ben, ça permet aux gens de rester chez soi et de pouvoir jouer à War 3 comme des dingos, ben finalement, je pense que le fait qu'on n'ait pas de playoff offline, ça enlève probablement un peu de hype. Et enfin, autre chose, c'est que Blizzard contractuellement demandait à ce que ESL fasse en sorte que le jeu soit streamé avec les graphismes Reforged. La problématique étant qu'avec le fiasco de Reforged, on s'est retrouvé finalement avec assez peu de nouveaux joueurs, mais plutôt un regain d'attention de la part des anciens joueurs qui, eux, étaient habitués au graphisme de Warcraft 3 classique et qui ne jouaient pas avec autre chose que ça. Et le fait est que regarder des parties avec des graphismes Reforged, si on n'en avait pas l'habitude, alors d'une part c'était assez mal réalisé, donc c'était assez illisible, et en plus on perd cette habitude qu'on avait de regarder des games en classique. Donc je pense que ça, tout ça mis bout à bout a fait que on n'est pas... Il n'y a pas eu, je pense, un retour à la hauteur de ce qui était espéré. C'est Wogaming qui récupère le streaming plutôt naturellement, en fin de compte, et logiquement, puisqu'il n'y avait pas tellement de concurrence et ils étaient positionnés sur du RTS avec StarCraft 2. Donc c'était absolument pas illogique. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de viewers et de hype autour. Rapport aux éléments que j'ai mentionnés. Et très honnêtement, je pense que un certain nombre de casters n'avaient pas touché au jeu depuis relativement longtemps aussi. Ça n'a pas aidé. C'est pas forcément leur faute, hein, mais ça se ressentait, je pense, dans le cast. Donc vraiment, tous ces éléments-là n'ont pas forcément aidé. Et même en tant que viewer, c'était compliqué à regarder, à suivre, à être hypé par ça. Par la suite, il n'y a plus cette obligation de streamer en graphisme Reforged. Heureusement, je pense qu'il y a eu assez de plaintes comme ça. Ils sont repassés en mode classique, mais ça n'a pas sauvé grand-chose. L'ESL et la DreamHack fusionnent en septembre 2020. Alors les deux marques continuent de coexister, hein, mais il y a vraiment une fusion qui est opérée. Et le contrat est rompu en octobre 2021 entre l'ESL et Blizzard. Après donc cette période de deuil, donc on est en 2023, fin 2023, Frenchcraft, donc nous, on lance notre propre championnat de France donc en décembre 2023 à cheval sur 2024 encore une fois. Donc cette fois on dévie un peu de l'esprit ESL puisqu'on l'ouvre absolument tout le monde. Donc on a décidé de ne pas faire une ligue d'élite. Ou en tout cas, pas uniquement, puisque finalement les joueurs sont répartis par niveau dans 5 divisions. Donc la première division voit la victoire de Jean Bomber en finale, 3-0 face à Zell, donc en finale des playoffs sur un miroir humain. Et parmi les autres joueurs en D1 en tout cas, on retrouve Destro, Pac-Man, Zeko, Jarrach, Insolite, BSK, Blast et Praflo qui droppera en cours de route parce qu'il faut toujours quelqu'un qui droppe en cours de route, sinon c'est pas drôle. Donc le cash prize est évidemment pas comparable du tout hein, compte tenu de la structure. On a 60 euros pour le vainqueur et une tape dans le dos. Mais voilà, au moins on avait je dirais, le mérite de relancer la machine. Mention spéciale aux vainqueurs des divisions 2, 3, 4 et 5, donc respectivement Toms, Weapon X, Listerium et Pixello Mouton. Voilà, donc la rétrospective s'achève ici sur l'arrivée de la mouture 2025, hein, comme je vous disais, pour laquelle je vous invite à vous inscrire, si les inscriptions sont toujours ouvertes en fonction de quand sort cet épisode. Si les inscriptions sont terminées, je vous invite quand même à suivre la compétition parce que ça risque d'être plutôt sympa à suivre, c'est plutôt bonne ambiance. En tout cas, on fait en sorte que vous aurez toutes les infos sur notre site internet french-craft.com où vous trouverez le Discord, le lien pour s'inscrire, le match Chérino, le suivi des résultats, le règlement, etc. Donc vous l'aurez compris, un parcours assez chaotique, porté autant que faire se peut par l'ESL, et ce, malgré les contraintes. Une compétition qui aura finalement simplement suivi les vagues successives du jeu sur ces périodes les plus actives, puisqu'on a une première période qui s'étale donc, comme je le disais, de 2004 à 2008 avec les ESL Pro Tour, les ESL Pro Series, pardon. Période creuse, puis retour à la sortie de Reforged en 2020. Et dernièrement, dans une moindre mesure, mais toujours avec passion, par une communauté qui décidément ne veut pas mourir de sa belle mort. Et c'est tant mieux pour nous. Voilà, si vous avez aimé, si vous aimez le format un peu rétrospective, etc., n'hésitez pas à commenter sur la plateforme que vous préférez, à mettre 5 étoiles si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez suivre les prochains épisodes, si prochains épisodes il y a. Et si au contraire vous avez trouvé ça atroce, bah, même chose, hein, n'hésitez pas à commenter, on essaiera de faire mieux ou on arrêtera la boucherie. Je voulais terminer simplement par un petit big up au site de teamaa.com et aux archives, c'est vraiment une mine d'or et assez incroyable que ce soit encore ouvert, en particulier pour les derniers EPT. Le site ESL qui était accessible par l'intermédiaire de d'archive.org en partie, Warcraft 3 Database, Warcraft 3 History, la chaîne aussi que je vous invite à suivre sur YouTube et sur Twitch, castée par notre ami allemand Fichy, et Liquipédia évidemment pour toutes les autres infos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, ciao. Heroes rise, villains twist.